Longtemps, j'ai contemplé l'océan sans le comprendre. Je ressentais l'énergie immense de ses eaux. Je m'étonnais de la profondeur de ses bleus. Je respirais l'air du large. Mais en réalité, je ne voyais rien.
Et on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce de Planète Océan, film de Yann Arthus Bertrand, qui est sorti en 2012. Et si lui ne voyait rien, comme il le dit, Sophie Martin, au contraire, chercheuse à la station biologique de Roscoff, a vu ces dangers qui guettent nos océans, et elle va nous parler tout de suite du risque d'une extinction de masse au micro de Garonne.
Sophie Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait une conférence le mardi 25 octobre au Champ Libre, dans le cadre des 150 ans de la station biologique de Roscoff. Qu'est-ce que c'est que cette station biologique de Roscoff ?
Alors la station biologique de Roscoff, c'est un grand centre de recherche et d'enseignement qui se trouve dans une toute petite commune du Nord Finistère qui s'appelle Roscoff. Et donc dans ce centre de recherche, on a plusieurs centaines de personnes qui travaillent, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs et puis des étudiants aussi. Des doctorants et des post-doctorants. Et ces personnes, elles travaillent sur différents thèmes de recherche. Ça va de la molécule jusqu'à l'étude des écosystèmes marins.
Alors, les gens ne savent pas forcément où c'est, mais donc, pourquoi Roscoff ?
Alors, pourquoi Roscoff ? Eh bien, parce que c'est juste au bord de la mer et qu'à marée basse, on y trouve une très, très grande diversité d'organismes. Et il y a 150 ans, puisque la station biologique de Roscoff fête ses 150 ans cette année, il y a 150 ans, il y a un professeur de zoologie de Paris, de la Sorbonne, qui est venu à Roscoff et qui a découvert la richesse et la diversité de ce qu'on pouvait trouver à marée basse sur l'Estran. Et il s'y est intéressé. Donc il a développé un petit laboratoire de fortune au départ dans une chambre d'hôtel en fait. Et donc, il a installé des aquariums pour étudier la faune. Enfin, il pouvait travailler sur du vivant, puisqu'à Paris, il travaillait sur des organismes qui étaient morts, dans des bocaux, dans l'alcool, dans le formol. Donc voilà, ça a commencé comme ça il y a 150 ans. Et puis après, il a, en 1872, donc il y a exactement 150 ans, il a créé un laboratoire de zoologie expérimentale à Roscoff, un petit laboratoire avec des aquariums et puis des paillasses. Il a pu faire venir des étudiants de France, de l'étranger. Voilà comment ça a commencé. Et puis ça s'est développé au cours des années. Donc la station s'est agrandie et aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de personnes qui travaillent à cet endroit.
Étant donné la spécialisation sur l'océan, vous avez fait hier une conférence sur cette acidification des océans. Qu'est-ce que c'est ? Quel est ce problème que cause le dérèglement climatique et l'émission de CO2 ?
Alors, l'acidification des océans, c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu moins que le réchauffement des océans, qui est aussi lié à l'augmentation du CO2. Donc, le CO2, c'est un gaz, le gaz carbonique, qui augmente en termes de concentration dans l'atmosphère. Et ce CO2, il se dissout dans l'océan. Donc l'océan, elle absorbe à peu près un quart des émissions de CO2 anthropiques qui sont liées aux activités humaines. Et lorsque ce CO2, ce gaz carbonique, se dissout dans l'océan, c'est un gaz qui est acide et il va acidifier l'océan. Donc c'est ça, l'acidification des océans. Plus il y aura de CO2 dans l'atmosphère, plus les océans s'acidifieront.
Et quelles sont les causes de cette acidification ? Uniquement les émissions de CO2 ou est-ce qu'il y a d'autres causes aussi qui peuvent engendrer cela ?
En termes de changement climatique, c'est essentiellement les activités humaines qui engendrent cette augmentation de CO2 dans l'atmosphère qui provoque cette acidification des océans.
Vous travaillez sur les effets du changement global sur les organismes et les écosystèmes marins. Et justement, quel est l'impact de cette acidification sur la biodiversité marine ?
Alors, à la station, on étudie, enfin, pour ma part, moi, j'étudie principalement les organismes benthiques. Donc, ce sont les organismes qui vivent au fond des océans, qu'on va trouver sur nos côtes à basse mer. Par exemple, on trouve des coquillages, on trouve des algues. Donc, ce sont ces organismes sur lesquels je travaille. Et donc, en laboratoire, on teste les effets de l'acidification sur ces organismes, là. Et donc, on sait que l'acidification des océans aura un effet principalement sur les organismes qui ont un squelette calcaire ou une coquille calcaire. Donc, par exemple, les mollusques à coquille, les coquillages. et d'autres organismes comme les algues calcaires. Donc ce sont ceux sur lesquels on travaille à la station biologique et on voit que d'ici 100 ans, il y aura un effet sur ces organismes-là qui ont plus de difficultés à fabriquer leurs coquilles, à grandir et parfois même à survivre.
Certains modèles de prédiction prévoient une augmentation de 150% de l'acidité de l'océan d'ici à 2100. Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi pourrait ressembler cet océan-là ou qu'est-ce que ça représenterait pour 2100 ?
Les modèles prévoient que l'océan va s'acidifier et selon les scénarios, l'océan pourrait même s'acidifier avec une acidification qui correspondrait à un triplement de son acidité. Donc c'est assez énorme. Alors il faut savoir que l'océan ne deviendra jamais acide, mais en fait cette acidité, elle est, alors c'est plus le pH, nous les scientifiques on parle de pH, c'est ce pH qui va diminuer, et cette diminution de pH, elle a un effet majeur sur la physiologie des organismes, et puis cette acidification, elle entraîne toute une cascade de réactions chimiques, et en particulier une diminution des ions carbonates dans l'eau de mer. Et cette diminution des carbonates, elle a un impact sur les animaux ou les végétaux qui ont un squelette calcaire, puisque eux ont besoin de carbonate pour former du carbonate de calcium qui sert à la construction des coquilles ou du squelette. Donc il pourrait y avoir un impact sur des espèces importantes qui créent des habitats, comme les coraux par exemple. Il pourrait y avoir un impact aussi sur des espèces d'intérêt commercial avec un fort impact économique derrière, comme pour les huîtres par exemple.
On a parlé pour l'instant d'un phénomène global qui touche toutes les mers et plus particulièrement en général celle de l'hémisphère sud. Mais vous avez un autre domaine de recherche, celui des changements locaux et de leurs impacts sur la faune et la flore. Quels sont ces bouleversements locaux qui peuvent donc aussi modifier une biodiversité, mais à l'échelle locale cette fois et probablement à celle de Roscoff pour vous?
On parle de cette acidification au niveau global, mais il faut savoir qu'il y a des disparités au niveau local. Donc, dans certains endroits, le pH diminuera plus que dans d'autres endroits. Donc, c'est important, en fait, de connaître cette évolution du pH à une échelle assez fine. Et pour ça, nous, à la station biologique de Roscoff, on réalise des suivis dans différents habitats pour connaître le pH actuel de l'eau de mer, et puis les modélisateurs pourront servir de ces données-là pour évaluer la baisse de pH dans le futur. Par rapport aux pollutions locales, en effet, en fait, ces pollutions, elles s'ajouteront aux effets de l'acidification. Donc des organismes qui subissent des pollutions locales autres que celles liées au changement global, ce sont des organismes qui sont affaiblis et qui seront plus vulnérables face au changement global.
Et est-ce qu'on a parlé des huîtres tout à l'heure, mais est-ce qu'on a des idées d'autres espèces qui seraient en danger ou en grand danger par rapport à cela ?
Alors nous, à la station biologique de Roscoff, on étudie les algues calcaires. Ces algues-là, elles sont particulièrement vulnérables puisqu'elles ont un squelette qui est composé de carbonate de magnésium et de carbonate de calcium, mais qui comporte une quantité importante de carbonate de magnésium qui est très soluble. Et donc, ça fait partie des organismes les plus vulnérables à l'acidification. On peut penser qu'ils auront du mal à grandir, à survivre. Et ces organismes-là forment des habitats très importants. Ce sont les bancs de merles autour de la Bretagne. En Méditerranée, ils s'accumulent pour former le coralligène. C'est un habitat très diversifié, le deuxième après les herbiers de Posidonie en Méditerranée. Donc ces habitats-là seront impactés dans le futur à cause de l'acidification. Pour revenir aux mollusques, on parlait des huîtres, mais il y a d'autres mollusques qu'on va trouver en Bretagne et qui seront impactés puisqu'ils ont une coquille. Donc à Roscoff, en collaboration avec d'autres laboratoires de Bretagne, la station marine de Concarneau et l'Institut universitaire européen de la mer, on étudie en particulier l'ormeau, qui est une espèce emblématique de Bretagne.
Et la solution semble évidente, c'est de réduire nos émissions de CO2. Mais est-ce qu'il y en a d'autres et comment rendre concret pour le public, en tout cas, cette acidification-là des océans et presque ce qui pourrait causer une extinction de masse de la biodiversité dans l'océan ?
Alors, Oui, il existe une solution. Comme vous l'avez dit, ce serait qu'il y ait moins de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça passe bien sûr par une réduction des émissions de CO2 ou bien une capture, un piégeage de ce CO2 qui est dans l'atmosphère. Donc il est piégé, le CO2, par les végétaux, aussi bien les macro-algues que les végétaux terrestres. Y a des personnes qui proposent aussi de stocker le CO2 dans le sous-sol des océans ou bien de fertiliser les océans pour capturer plus de CO2. Voilà, donc il y a des choses qui sont possibles. Après, on ne connaît pas encore bien les impacts que ça peut avoir sur les écosystèmes marins.
En quoi, pour lutter contre l'acidification des océans, est-il important de préserver les espaces marins? Quel impact ça a sur ce phénomène-là?
Alors, en effet, c'est important de protéger, voire de restaurer ces habitats, les habitats marins, parce que lorsqu'ils subissent d'autres types de pollution, les organismes deviennent plus vulnérables au changement global. Donc c'est important que les organismes marins soient en bonne santé pour pouvoir faire face au changement global.
Sophie Martin, merci beaucoup.
Merci à vous.